Bonjour à chacun et à chacune. Pour démarrer cette prédication et avant de faire l'introduction, je vous propose de regarder une petite vidéo. N'avez-vous pas lu ce que fit David ? Ça, c'est Jésus qui dit ça dans l'évangile de Matthieu. Et en fait, c'est ce qu'on vous propose de faire dans les prochaines semaines à l'église évangélique de Vendeuvre. C'est de se plonger dans ce que fit David. Et on va avoir l'occasion de balayer. Alors, Jean-Pierre l'a dit, on ne pourra pas tout dire. David, c'est un personnage biblique. En fait, c'est le personnage biblique qui a le plus de textes hormis Jésus, en fait, dont la Bible parle. Donc on n'aura pas l'occasion de tout faire, mais je vous ai, et puis on aura l'occasion de le remontrer après tout à l'heure, je vous ai remis la... Alors je ne sais pas si ça fonctionne, mais sinon je vais te laisser gérer, Teddy. Je vous ai remis juste les plannings des prochaines dates. Donc il y aura 11 prédications, et donc si jamais vous voulez avoir les éléments, vous pourrez avoir les dates et noter les dates, vous pouvez le faire. Sachez aussi qu'on a prévu que les prédications soient mises en ligne le jour même, c'est-à-dire dans la journée, parce que l'un des objectifs de cette série, c'est de transformer le monologue en dialogue, c'est-à-dire de permettre à ce qu'il n'y ait pas juste une personne qui parle, mais après de pouvoir aussi échanger les uns avec les autres par rapport à ce que l'on lit, par rapport à ce qu'on comprend et par rapport à la manière dont on est interpellé et challengé par rapport à ça. Et du coup, je vais faire circuler des petites... en fait, c'est des petits résumés. Et derrière, vous trouverez des questions pour les groupes de maison. Alors, je l'enverrai peut-être aussi par PDF, comme ça, vous l'aurez dans les annonces. Mais vous pouvez déjà, pour suivre aujourd'hui, prendre un papier. J'avoue que du coup, j'ai imprimé 5, enfin Nathalie en a imprimé 50. Donc si jamais éventuellement vous êtes en couple, vous pouvez lire avec la personne à côté de vous et j'espère qu'il y aura ce qu'il faut pour tout le monde. Voilà, donc ça ira jusque la dernière prédication, c'est le 3 mai. L'idée de partager, de le vivre dans les groupes de maison, c'est aussi l'objectif, encore une fois, de pas simplement juste en rester à « j'ai écouté une demi-heure de prédication », mais aussi comment est-ce que ça transforme nos vies, comment est-ce qu'on fait le lien entre ce que l'on entend le dimanche matin, comme l'a dit Jean-Pierre, et la manière dont on vit sa semaine par rapport à ça. Alors, donc je l'ai dit, pour moi, j'ai la lourde tâche donc, d'ouvrir le bal par rapport à cette série-là, qui est très dense, très riche. Et je vous propose, pour démarrer, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça me semble important, en fait, de poser le cadre et de poser le contexte. Et pour poser le cadre, je vous invite à avoir en arrière-plan, dans nos lectures, dans nos échanges, et puis voilà, pendant tout le long de la série, en fait, une sorte de paysage de fond basé sur trois idées. Peut-être qu'il y en aurait d'autres, mais en tout cas, ça me semble trois idées clés. Trois idées clés quand on va ouvrir ce livre de 1 Samuel, 2 Samuel, et même au-delà, parce que David, comme je disais, il est évoqué dans de nombreux livres bibliques. La première idée, c'est que l'histoire de David est une histoire. C'est un scoop. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, enfin, ou en tout cas, on peut avoir tendance, quand on ouvre nos Bibles, à se dire, bon, là-dedans, c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut ? Et quand j'ouvre quelque chose, je vais lire et je me dis, ben, en fait, ce que Dieu veut, c'est ce qui est noté. C'est-à-dire, la personne a agi de telle manière, et j'agis de cette manière-là. Eh bien, pour le livre de 1 Samuel, il ne faut pas faire comme ça. C'est une très mauvaise idée. Si vous commencez à appliquer exactement ce que les gens ont fait, eh bien, parfois, ils se sont réellement plantés, et Dieu les a repris par rapport à ça. Donc, cette idée qu'il faut voir l'histoire de David comme un récit, d'ailleurs, dans la Bible, 2/3 des textes sont des récits, sont des structures narratives, où en fait, l'idée, ce n'est pas que l'auteur nous dise ce qu'on fasse, ce qu'il ne faut pas qu'on fasse, qui est les bons, qui sont les méchants, qui sont les bons, qui sont les méchants, et tout ça. C'est plutôt de raconter une histoire, et après, de nous laisser, parfois un peu de manière pas facile, en fait, de nous laisser comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est l'essence même de ce récit et de l'histoire qui est racontée. Je donne juste comme ça deux exemples. Hein. David a eu 8 femmes. Si on en conclut que Dieu est pour la polygamie, on va être mal barré. On va lire dans le texte aussi que Dieu a demandé à Saül d'exterminer un peuple entier, les Amalécites. Là aussi, si on en conclut que Dieu est un Dieu sanguinaire qui ne supporte aucun rival et qui prend plaisir à détruire ses ennemis, je pense qu'on rate clairement la cible. Donc, mon premier conseil, laissons se dérouler l'histoire et restons prudents, notamment sur nos conclusions morales. Deuxième cadre que je vous propose, l'histoire de David nous invite à une spiritualité très terrestre. On pourrait dire beaucoup de choses par rapport à ça, mais je vous donne un fait que j'ai trouvé marquant, en fait. Dans toute l'histoire de David, il n'y a aucun miracle. Aucune chose extraordinaire qui sortent en fait de ce qui est possible d'arriver dans le monde. Si on est là pour chercher du surnaturel, avec David, on est au mauvais endroit. David n'était pas un surhomme, c'était un garçon discret, mais après aussi un homme qui exprime une spiritualité très humaine. C'est un homme qui va pleurer, un homme qui va être en colère, un homme qui va échouer lamentablement à certains moments, et un homme qui doit apprendre à se repentir. Et donc, toute cette idée de se faire accompagner par David en tant que compagnon de notre humanité, c'est quelque chose qui me semble important dans ce qu'on va pouvoir vivre, échanger, expérimenter durant cette série. Et enfin, la dernière chose qu'on peut garder comme ça un peu en arrière-plan, un paysage de lecture, c'est que l'histoire de David, elle s'inscrit dans une histoire qui est plus globale, une histoire qui est celle de tout le récit biblique et qui trouve son apogée en Jésus-Christ, le Messie. Jésus, c'est l'aboutissement de l'histoire de David. Jésus, il est appelé le fils de David. C'est lui qui en descend directement et qui, en fait, accomplit toutes les promesses qui ont été évoquées dans l'Ancien Testament, notamment au travers de David. Et donc ça, on aura l'occasion de le découvrir. Il y a de nombreuses implications par rapport à ça. Je ne rentre pas dans les détails par rapport à ça. Donc après avoir posé ce petit cas, cet arrière-plan, il nous faut poser un petit contexte. J'avais transmis dans les annonces de vous encourager, en tout cas pour ceux qui ont eu les annonces, en fait, à pouvoir lire le passage de 1 Samuel 15, 1 Samuel 16. C'est très très long et en fait, je vous spoil déjà, mais en fait, on n'aura pas le temps de tout lire, c'est impossible. Sinon, ça nous prendrait toute la prédication, voire même plus. Mais du coup, ça me donne l'occasion aussi de poser un peu le contexte. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'en fait, parler de David, ça a de sens que si on parle du peuple d'Israël et à quel moment de son histoire il est. Et en fait, quand David apparaît, et dans cette période-là, en fait, c'est une période clé, une période cruciale de la vie du peuple d'Israël. Dans son histoire, le peuple d'Israël, il a eu deux modes de gouvernance. Il a été... En fait, la gestion du peuple s'est faite de deux manières. Donc, deux formes de gouvernement, quoi. Donc, la première partie, c'était une théocratie. La théocratie, c'est quoi? C'est quand Dieu règne. C'est-à-dire, en fait, quand Dieu est le chef. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui donne les ordres, il obéit et le peuple suit. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas de manière directe. On pourrait parler de théocratie indirecte, je ne sais pas, peut-être un peu comme les démocraties représentatives, on serait sur une théocratie représentative, ou en tout cas, du coup, Dieu a utilisé des représentants, comme Moïse, comme Josué, comme les juges, comme des prophètes, des prophétesses, des prophètes comme Samuel, que l'on va découvrir, prophétesses comme Déborah, qui étaient ses porte-paroles, auprès du peuple et qui faisait le lien entre ce que Dieu disait au peuple et ce que le peuple avait envie de faire remonter à Dieu. Mais voilà qu'on arrive à ce moment de l'histoire où en fait le peuple, alors je ne sais pas s'il en a marre, mais en tout cas il veut changer. Et il réclame un roi. Et il nous a dit qu'en fait il voulait faire comme les peuples aux alentours, il veut une monarchie. Alors je pense qu'aujourd'hui ça nous paraîtrait un peu bizarre de souhaiter ça. Une personne forte qui gouverne, mais voilà. Et ben pour Dieu aussi, c'était un peu surprenant. Et d'ailleurs, il a été un peu surpris, Dieu. En tout cas, c'était pas sa volonté première. Et il dit donc Samuel fait remonter cette desiderata du peuple à Dieu que le peuple lui a donné. Et Dieu lui dit mais ne t'en fais pas, c'est pas contre toi qu'ils en veulent, c'est contre moi. Et on peut se dire à ce moment-là, ben Dieu, c'est quand même le roi de son royaume, il tape du poing sur la table, il dit, bon, ça finit, c'est fini les bêtises, on passe à autre chose, je reste le roi, quoi. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, de manière assez surprenante, en fait, Dieu, il accepte. Il accepte de répondre favorablement à cette demande du peuple. Alors, pour la petite anecdote, et je l'ai mis dans les notes, mais je ne rentrerai pas dans les détails, il y a d'autres moments dans la Bible où ça arrive, d'autres moments qui sont arrivés auparavant, et qui arriveront encore, où Dieu va changer sa manière de voir les choses en relation avec ou en tout cas d'être en interaction avec son peuple. On peut mentionner par exemple l'institution des prêtres. Quand Dieu rencontre le peuple d'Israël, quand il le sort d'Égypte et qu'il l'amène au mont Sinaï, il dit à ce moment-là, je veux, mon désir profond en tant que Dieu, c'est que vous soyez tous des prêtres et des sacrificateurs. Et en fait, le peuple a peur et il ne monte pas sur la montagne. Et finalement, en fait, Dieu va se retrouver à mettre en place un peuple spécial de prêtres qui vont faire les intermédiaires, c'est-à-dire en gros parler à Dieu au nom du peuple et parler au peuple au nom de Dieu, c'est-à-dire créer l'intermédiaire. Et en fait, Dieu, à la base, ce n'était pas son projet. D'ailleurs, il reviendra dessus dans le Nouveau Testament, puisque nous avons tous cet accès direct et on n'a plus besoin de faire cette connexion avec une personne intermédiaire. Donc ça, c'est un des exemples qu'on peut avoir. Un autre exemple, peut-être, je crois qu'on le verra dans la suite de la série, c'est la question du temple, où David a envie de construire un temple pour Dieu. Il dit, moi j'ai un super palais, mais toi t'as qu'une tente, hein, c'était le tabernacle, j'aimerais bien te construire quelque chose. Et Dieu dit, non, moi je suis plutôt plein air, je préfère rester avec ma tente. Du coup Dieu accepte quand même, mais il dit, ok je veux bien, mais du coup ce sera pas toi qui vas construire, ce sera ton fils Salomon. Et pour moi ces références bibliques, elles sont intéressantes parce que je trouve qu'elles témoignent de l'amour de Dieu pour son peuple. Mais pas un amour un peu extrait, désincarné ou théorique, en fait. C'est vraiment, je t'aime et j'ai envie d'être à ton écoute J'ai envie d'être prêt à recevoir, en fait, quels sont tes désirs, quelles sont tes motivations, en fait, qu'est-ce qui te travaille. Et je trouve que c'est intéressant de voir la manière dont Dieu s'accommode, d'une certaine manière, en fait, avec ces idées qui lui sont proposées et qui n'étaient pas prévues initialement dans le plan. Et on pourrait dire, et là je cite un pasteur qui s'appelle Marc Pernot, que finalement, souvent Dieu suit l'être humain bien plus que l'être humain ne suit Dieu. Dieu décide d'accompagner l'être humain et il sait que ça va mal se passer. Et on va en avoir un petit aperçu aujourd'hui. Mais malgré tout, il reste fidèle et il s'engage avec le peuple. Parce que je crois qu'un des éléments importants dans tout le récit biblique, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, Dieu choisit toujours l'intimité de la relation aux dépens de l'efficacité. C'est toujours la relation aux dépens de la solution. Et donc, Dieu va prendre en compte le désir d'avoir un roi. Et d'ailleurs, le sens du nom Saül, ça veut dire « désir ». Donc, en fait, Saül, c'est celui que le peuple a désiré. Donc après des débuts assez prometteurs avec ce nouveau roi, donc pour ceux qui ont déjà commencé à lire 1 Samuel ou qui connaissent, la suite est beaucoup moins favorable. Donc c'est à partir du chapitre 12-13, parce que Saül désobéit à Dieu et il se détourne de Dieu et de son prophète Samuel. Et notamment il désobéit en décidant d'offrir des sacrifices alors qu'il est roi, il n'est pas prêtre. Et donc Samuel le reprend de la part de Dieu. Ouais, c'était les... Mince. Faut peut-être avancer. Ouais, c'est bon. Voilà, dans tout le récit, en fait, donc Samuel reprend Saül et lui dit « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. » L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et en fait, c'est là où on démarre notre récit de 1 Samuel 15. En gros, sur le récit, alors là on a une chronologie de... du livre de Samuel, des livres de Samuel, Samuel 1 et Samuel 2, où en fait on voit les personnages principaux, donc Samuel au départ, ensuite Saül avec son ascension et sa chute, et en parallèle l'ascension et aussi le déclin de David qu'on aura l'occasion de découvrir tout au long de la série. Et en fait, où est-ce qu'on est nous aujourd'hui ? Eh bien nous, on est ici, tout au début. On va dire au début du déclin de Saül et au début de l'émergence de David. Donc 1 Samuel 15. Alors pour ceux qui veulent suivre avec vos téléphones ou vos bibles, vous pouvez le faire. Moi ce que je vous propose, c'est comme je l'ai dit, on n'aura pas le temps de lire tout le chapitre, mais je vais vous faire un résumé. Voilà, pour tous ceux qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire ou qui ont besoin de... d'avoir les éléments par rapport à ça. Donc, tout au début du chapitre 15, Samuel va parler à Saül et il lui dit « Voilà ce que Dieu te dit. Va attaquer le peuple des Amalécites et réduis-les en cendres. » Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à... On commence avec du chaud, là. Dieu demande à Saül et au peuple d'Israël de tout détruire chez Amalek. Les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, le bétail, voilà. Donc on pourrait être choqué, et c'est une bonne chose, puisqu'en fait, quand on regarde nos Bibles, il y a de quoi être en contradiction avec cette attitude-là, notamment dans le Nouveau Testament, dans l'attitude de Jésus qui nous demande même d'aimer nos ennemis. Voilà, donc je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à ça. Y en a que ça peut intéresser, en fait, il y a des références en fait, à ce que les Amalécites ont fait au peuple d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils sont montés vers le pays de Canaan. Globalement, en gros, ici, a priori, ce que Dieu va prononcer, c'est un jugement contre Amalek. Amalek a attaqué le peuple d'Israël, et en fait, ils ne l'ont pas attaqué de manière classique, en fait, ils l'ont pris par derrière, là où il y a les vieillards, les enfants, les nourrissons, les femmes. En gros, c'était un peu une sorte de lâcheté de la part du peuple d'Amalek, et Dieu leur avait demandé de se repentir de ça, et avec tous les siècles qui se sont passés, Dieu décide de poser un jugement à ce moment-là. Voilà, ça explique pas tout, ça donne pas toutes les réponses, mais ça donne des éléments de contexte qu'on peut retrouver dans, je crois que c'est dans le Deutéronome, il me semble. Alors, de manière assez surprenante, en fait, c'est pas forcément ça qui inquiète Samuel. C'est ce que Saül va faire. Donc, il va prendre le peuple d'Israël et puis il va faire une embuscade et il va aller battre Amalek. Mais il va garder vivant le roi d'Amalek, Agag, et il va garder aussi le meilleur butin, le meilleur bétail, donc les bœufs, les agneaux, les veaux gras et tout ça. Et le texte nous dit qu'ils ont détruit tout ce qui était méprisable et sans valeur. Donc là, ça donne déjà un peu une idée de qu'est-ce qu'ils cherchaient derrière ça. Donc un roi, parce que le roi, ça se négocie, hein, on peut faire des transactions, et puis les bœufs, les veaux gras, parce que ça a de la valeur sur le plan financier. Et donc là, Dieu, il se dit, non mais en fait, il n'a pas obéi. Et donc il reprend cette affirmation qu'il avait reprise un peu plus tôt, en disant, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. Et donc Dieu envoie Samuel voir Saül, et pendant ce temps, Saül, lui, se fait construire un monument symbole de son pouvoir, probablement aussi un monument symbole de son orgueil, hein, de la manière dont il se dit « j'ai tout fait bien », tout ça. Et quand il voit arriver Samuel, justement, c'est ce qu'il lui dit. Il dit « ah, Samuel, j'ai accompli la parole de Dieu ». Et en fait, ça nous montre une chose, c'est que cet orgueil dont il fait preuve l'a complètement aveuglé, en fait. Ça l'a rendu sourd et aveugle à sa désobéissance, en fait. Il avait simplement en tête juste voilà, le fait de se dire ce qui est important, c'est d'accumuler des richesses, et puis il avait complètement oublié l'obéissance à Dieu. Et donc Samuel le reprend, et alors je vous propose un petit échange un peu sous forme de, je ne sais pas si on peut dire WhatsApp, mais où chacun échange l'un à côté de l'autre. Donc Samuel dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles, et ces mugissements de bœufs que j'entends? Je pensais que tu avais tout détruit, que tu avais accompli la parole de l'Éternel. Et puis du coup, Saül, il explique, il dit « Ah, mais ils les ont amenés de chez les Amalécites. » Donc, ils, c'est les soldats, hein, c'est le peuple d'Israël qui allait combattre. « Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, et le reste, nous l'avons voué à la destruction. » Donc, t'inquiète pas, on a fait ce qui était prévu. Mais après, Samuel lui dit « Ben, en fait, non, ce n'était pas ce qui était prévu. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Et là, on voit Saül, avec sa logique, dire « Ben moi, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek. » Alors déjà là, ben, en fait, non, il n'a pas écouté l'Éternel puisque ce n'était pas ce que l'Éternel lui demandait. « Et j'ai voué les Amalécites à la destruction. » Mais le peuple, ah oui, non, moi j'ai tout fait bien, mais par contre, eux, en fait, ils ont pris le butin. Je ne sais pas si ça vous rappelle des choses, ce genre de méthode. Moi, j'avais tout bien fait, mais c'est eux, en fait, qui ont pris le butin. C'est eux qui ont gardé les meilleures brebis, c'est eux qui ont gardé les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés. Et ils les ont gardés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Donc, ils l'ont fait pour toi, Dieu, en fait. Pourquoi tu râles, en fait? Tu peux quand même pas me reprocher de faire des trucs pour Dieu. Et la réponse de Samuel, en une phrase, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Ici, dans ce passage-là, il y a un accent qui est mis sur une déformation, alors peut-être à l'époque justement de Saül, sur l'utilisation des sacrifices un peu comme une solution rapide et facile pour répondre à toutes les erreurs. J'ai péché, un sacrifice. J'ai désobéi à Dieu, un sacrifice. De toute façon, Dieu, il est juste, il est bon. C'est dans sa nature de me pardonner. Donc, S'il pardonne, ben, je peux y aller. Mais Samuel, il le reprend et il dit, mais attention Saül, réfléchir comme ça, c'est un peu prendre Dieu pour un idiot. Et dans toute relation, relation de confiance, relation d'amour en fait, il y a cette idée qu'on ne veut pas manipuler l'autre, on ne veut pas essayer de travailler les choses en sa faveur, mais qu'il y a une obéissance réciproque dans la relation qui fait qu'on se tourne dans un... l'attitude que l'on a, c'est une attitude d'humilité, une attitude de service volontaire, et pas simplement d'essayer de savoir un peu qu'est-ce que moi je peux gagner dans cette relation-là. Ça, c'est vrai dans tout type de relation, hein, les relations de couple, les relations amicales. Si on est toujours dans cette idée de qu'est-ce que je peux gagner de cette relation-là, ben, on ne se fait pas souvent des amis. Alors, peut-être comment le comprendre ici, je fais un petit lien avec nous, puisque on est plus à l'époque de Saül, mais on est dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. La venue de Christ change et transforme les choses, j'en ai un peu parlé au début. Et il y a un théologien protestant qui s'appelle Jacques Ellul, qui souligne que pour nous les chrétiens, notre obéissance, donc cette obéissance, elle est au commandement du Christ, qui est le fondement de notre foi. Et donc il fait une distinction que d'autres théologiens ont prise aussi, en faisant la distinction entre le commandement et la loi. La loi, c'est invariable, éternelle, elle est un peu une sorte de... elle s'applique à tout le monde et elle s'impose de manière identique à tout le monde. C'est un peu la même chose dans nos sociétés. Ça ne tient pas compte des circonstances. Le commandement, c'est une parole singulière qui nous est adressée à chacun individuellement. Elle m'est adressée à moi, elle t'est adressée à toi. Et il dit la chose suivante, en Jésus-Christ, la loi devient commandement. La loi de l'Ancien Testament est devenue relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est plus cette parole théorique et abstraite, mais c'est une parole personnelle, individuelle, qui est adressée à chacun et chacune d'entre nous. On pourrait la résumer ainsi. Qui arrive. Toi, suis-moi. Il y a bien d'autres commandements, mais celui-là, ça en fait partie. Et donc, il explique en disant, mais en fait, comment est-ce qu'on répond à ça? Il nous dit la chose suivante, l'obéissance en Christ, c'est le contraire du devoir ou de l'obligation. Il n'y a aucune contrainte. Il y a simplement audition d'une parole que je reçois et qui me commande, en face de laquelle j'ai à obéir, mais sans pression ni sanction. L'obéissance à Christ, c'est le contraire d'un devoir ou d'une obligation, elle est audition d'une parole. Voilà, je termine, ça c'est vraiment le verset clé en fait de ce chapitre, si vous devez en retenir un en fait c'est celui-là, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Et après, pour terminer le chapitre, en fait, Saül commence une confession. Alors, je crois que je l'ai peut-être... Non, je ne l'ai pas mise. Il commence, en fait, une confession et il dit « J'ai péché, j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles, mais j'ai eu peur et... » Voilà. Et en fait, là, malheureusement, Saül, il aurait dû s'arrêter avant, en fait, hein. Il aurait dû juste dire, voilà, j'ai péché, je reconnais que j'ai fait le mal. Et en fait, il retombe de nouveau dans ses travers, de dire, il commence une ébauche de repentance, mais en fait, après, il dit, mais en fait, c'était, moi j'ai eu peur, j'ai écouté le peuple, en fait. C'est la faute du peuple, en fait. Et l'attitude de repentance, en tout cas, dans cette attitude-là, en fait, Saül ne prend pas sa part de responsabilité. Il se cherche des excuses. Et après, il dit, maintenant je t'en prie, Samuel, pardonne mon péché, reviens vers moi, j'adorerai l'Éternel. Et là, il se dit un peu, c'est un peu comme s'il disait, écoute, c'est bon, j'ai demandé pardon, on oublie tout, on passe à autre chose, allez, viens, il y a des béliers, on va les offrir à Dieu, viens faire un sacrifice avec moi. Et en fait, ce qu'il cherche, c'est l'approbation de Samuel, c'est un peu une manière de mettre le tampon en disant, j'ai le prophète avec moi, tout le peuple, c'est une forme de validation, en fait. Et Samuel dit, ben non, c'est pas possible, en fait. Moi, je suis le représentant de Dieu et l'obéissance à Dieu, enfin, et tu as désobéi à Dieu. Et après, Saül répète encore une fois, il dit, j'ai péché, maintenant, honore-moi devant les anciens du peuple et devant Israël, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Et là, c'est fini. L'Éternel, c'est plus son Dieu à lui, en fait, c'est juste le Dieu de Samuel. Lui, tout ce qu'il voulait, en fait, c'était garder pour lui cette reconnaissance du peuple, de maintenir les apparences, de ne pas perdre la face par rapport aux anciens du peuple. Mais ça ne marche pas, parce que comme on va le voir dans le chapitre suivant, Dieu, il ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. On arrive sur ce chapitre 16. Donc en fait, à la fin du chapitre 15, ils partent un peu, même très embrouillés, et c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Finalement, pour la petite histoire, en fait, Samuel, il est un peu remonté. Et en fait, du coup, il va tuer Agag, donc le roi d'Amalek. Et le texte nous dit même que, alors, certaines versions sont très euphémisées, il est dit qu'il le mit en pièces. Hein. Donc, je ne sais pas, voilà, bon, bref. En tout cas, ça dégrade la relation entre Saül et Samuel. On arrive au chapitre 16. Donc, comme je l'ai dit, on va dire le divorce entre Samuel et Saül est consommé. Et Samuel a une parole de Dieu, tout au début du chapitre 16, qui lui dit « Va dans la tribu d'un certain Isaïe. » C'est une tribu, c'est une famille, pardon, dans une certaine famille, de la tribu de Juda. C'est dans une ville un peu paumée qui s'appelle Bethléem. Voilà, Bethléem. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est pas grave. Hein, c'est, voilà. Et là, tu vas pouvoir y consacrer celui que j'ai choisi. La particularité, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Samuel, il dit rien du tout sur le nom de la personne qu'il choisit, sur à quoi il ressemble, sur... on a l'impression qu'il y a un petit peu quelque chose de... C'est comme s'il a envie de faire expérimenter, enfin, comme s'il préparait Samuel à vivre une expérience qui va le marquer. Et ça va être le cas. Donc, comme je l'ai dit, en fait, Samuel, c'est rien du tout, mais en fait... c'est pas vraiment ce qui inquiète Samuel. Ce qui inquiète Samuel, c'est la réaction des partisans de Saül. Il se dit, mais si je vais là-bas, en fait, les partisans de Saül, ils vont me tuer. C'est pour vous dire un peu que la relation était vraiment pas au beau fixe, quoi. Mais Dieu le rassure, il lui dit, bon, écoute, on va faire passer ça comme un sacrifice. Donc tu prends un bœuf, tu l'emmènes avec toi, et tu fais style que tu vas offrir un sacrifice. Et au milieu du sacrifice, en fait, il rencontre les fils de Isaïe. Et le texte nous dit qu'il voit le premier, Eliab, et là il dit « Waouh, c'est lui. C'est certainement lui que Dieu a choisi. » Et franchement, je pense qu'on ne peut pas forcément lui en vouloir. Pour une première raison, c'est celle dont on va parler tout à l'heure, mais pour la deuxième, c'est qu'en fait, Samuel, il a quand même au moins Saül. Donc il connaît les critères de Dieu, en fait. Donc, Saül, c'était un gars costaud, il avait une tête de plus que tout le monde, il était assez baraque et tout ça, et bien il dit, en fait, Dieu, il va garder la même logique, en fait. Il a choisi Saül, il va choisir un gars costaud. Donc, je ne serais pas aussi, comment dire, critique par rapport à l'attitude de Samuel en se disant, est-ce que vraiment, voilà, il a regardé les apparences et tout ça. Bon, je pense que c'est plutôt ici, donc après, il y a cette fameuse parole, en fait, où Samuel voit les différents, voit le fils, et puis en fait, Dieu lui dit, je ne l'ai pas mis, mais ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur de taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, Dieu regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel, il avait dans sa tête des projections, des représentations sur à quoi peut ressembler un roi, hein. Et Dieu le reprend par rapport à ça. Encore une fois, je pense que c'est pas un jugement, en tout cas, vis-à-vis de Dieu, mais c'est plutôt une manière de dire, voilà, les êtres humains, on est fait comme ça, on a cette tendance à toujours en premier lieu regarder les apparences. Et en fait, l'appel de Dieu, c'est à dire, va au-delà. Donc, il s'agit pas de dire, ne regarde pas les apparences, mais va au-delà. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Samuel qui a des représentations, puisqu'en fait, Isaïe aussi, il a des représentations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Isaïe, il voit le prophète de Dieu arriver, et il se dit, chouette, Dieu a un plan pour ma famille. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 0% de chance que ce soit le petit dernier qui soit appelé. En fait, il a aussi ses représentations. Et quand Samuel passe en revue tous les fils et qu'il dit « Non, pas lui, non, pas lui, non, pas lui », et que finalement Samuel se tourne vers Isaïe et qu'il lui dit « Mais t'en as pas un autre encore ?» Il dit « Oui, oui, si, 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 bon, c'est le plus jeune fils, en fait. » Et alors là, dans le texte, en fait, le mot hébreu, c'est « katan », et ça signifie pas seulement le plus jeune, mais ça veut dire aussi le plus insignifiant, le moins important. Ça nous dit quelque chose sur la manière dont Dieu envisage les choses. Et après, dans la Nouvelle Alliance, dans la révélation ultime, en fait, l'apôtre Paul nous rappellera la chose suivante. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Il a choisi. C'est un choix de la part de Dieu. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise sur ce qui est considéré comme katane, insignifiant. Et pourquoi il l'a fait ? Pour réduire à néant ce que le monde estime important. Donc nous, on a la vision globale, on sait ce que, via la révélation de Jésus-Christ, voilà, mais à l'époque, Samuel, il ne savait pas. Donc si on résume, Samuel se base sur les apparences, Isaïe se base sur l'âge, la place dans la fratrie, le petit dernier, c'est impossible qu'il soit appelé. Mais Dieu regarde au cœur. On pourrait dire beaucoup de choses par rapport à cette phrase et cette idée, mais pour aller vite, je donne juste un élément. On a souvent une compréhension qui peut être un peu déformée de ce que c'est le cœur, parce que souvent on entend des choses du genre toi tu penses que tu sais les choses avec ton cerveau, mais en fait il faut que tu apprennes à les vivre avec ton cœur. Et on oppose parfois, connaissance intellectuelle et connaissance émotionnelle, un peu comme si le vécu de l'expérience et vécu émotionnel étaient plus authentiques. Et ça, en fait, ben, c'est un peu notre déformation européen, ou en tout cas, personne qui habite au XXIe siècle, ici, dans notre monde. C'était pas du tout la grille de lecture qu'avaient les juifs de l'époque, et d'ailleurs dans tout le récit biblique en fait, hein, le cœur c'est pas une dissociation entre l'esprit, enfin le cerveau et l'intellect, et puis de l'autre côté les émotions, mais les deux sont liés. Le cœur c'est l'endroit où l'on pense, l'endroit où on exprime sa volonté, et l'endroit où on prend les décisions. En fait ça représente tout l'intérieur de l'être humain. Donc le cœur du cœur, c'est ça. Et c'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu voit en nous. Il voit nos motivations, il voit nos prises de décision, et on peut lui remettre, on peut lui partager tout ce qu'il y a au fond de nous. Voilà. J'avais un petit commentaire sur le fait que, donc, à ce moment-là, David se fait oindre par Samuel, et j'avais été surpris de remarquer qu'en fait, c'est pas la seule fois que David va se faire oindre. Donc il va se faire consacrer, il va se faire consacrer trois fois dans toute sa vie. La première, c'est le petit comité là, donc à Bethléem. Et il y aura encore deux autres onctions. Une onction dans sa capitale Hébron, qui aura lieu 12 ans plus tard, après la mort de Saül. Et là, c'est les hommes de Juda, donc de la tribu de Juda, qui vont le consacrer. Et après, finalement, 2 ans plus tard, c'est tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire toutes les autres tribus, qui vont le reconnaître roi. Puisqu'en fait, l'onction était adressée au roi. Voilà. En conclusion, j'aimerais terminer par cette question. Pourquoi, finalement, Dieu a choisi David ? Et pourquoi il a rejeté Saül ? Comment est-ce qu'on peut expliquer le choix de Dieu ? Est-ce que c'est parce que David était meilleur, qu'il était plus exemplaire? On aura l'occasion de revoir, mais dans sa vie, clairement, David, il a parfois été un très, très, très mauvais exemple. Et c'est un euphémisme de dire ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que David, est un homme selon le cœur de Dieu? On pourrait parler des différences d'attitude entre Saül et David. Saül était impatient, il n'a pas su attendre que Samuel arrive pour réaliser le sacrifice. D'ailleurs, c'est la première fois que là, Dieu le reprend et qu'il lui dit, ben, finalement, j'arrête ton règne. Alors que David, par exemple, lui, il a été oint, mais en fait, pendant 12 ans encore, il a attendu. Et je me dis, il y a des moments où il était face à Saül, il avait l'occasion de finir le règne de Saül, et il aurait pu se dire, en fait, ben, si je finis le règne de Saül, je sais que c'est moi le prochain. Donc pourquoi pas accélérer les choses? Mais contrairement à Saül, David, il a su s'attendre à Dieu. Alors, il y aurait d'autres raisons à évoquer. D'ailleurs, dans les groupes de maison, vous aurez l'occasion de l'évoquer. En tout cas, dans les questions, c'est l'une des questions que je vous ai proposé de répondre à l'arrière. Mais certains commentateurs du livre qu'on vient de parcourir, là, des deux chapitres qu'on vient de parcourir, mentionnent la chose suivante. Ils disent qu'en fait, un des passages clés pour comprendre tout ce qui se passe dans le livre de 1 Samuel, en fait, c'est le tout début. C'est le cantique de Anne. Anne, c'est la maman de Samuel, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand Dieu lui promet d'avoir Samuel, elle chante un chant. Et ce chant-là, j'en ai pris quelques extraits, juste pour vous montrer et voir le lien et la cohérence en fait entre l'histoire qu'on vient de mentionner. Elle chante ce chant qui dit « L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. » On refait référence ici aux faibles, aux catanes, aux insignifiants. De la poussière, il retire le pauvre, et du fumier, il relève le faible, pour le faire asseoir avec les grands. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Alors, j'ai souligné bien-aimés, parce que peut-être vous le savez, moi je ne le savais pas. David, en hébreu, ça veut dire bien-aimé. Est-ce qu'il y a une référence? J'ai essayé de regarder en hébreu, ce n'est pas tout à fait le même mot, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, David, ça veut dire bien-aimé, et là, elle fait référence au fait qu'il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. On peut voir le parallèle entre le choix de Dieu, en fait, d'accompagner le faible. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Je trouve que c'est un beau résumé, en fait, de tout le livre de 1 Samuel, et de la manière dont Dieu fait des choix, et ces choix-là sont en faveur de l'insignifiant, du faible et du pauvre. Mais ce qu'on peut dire, je pense en définitive, c'est quand même qu'en fait, avant tout, le choix de Dieu, c'est un choix de la grâce. David n'a rien mérité. Mais ce qu'on peut garder en tête, c'est que dans tout le récit biblique, quand Dieu choisit une personne, c'est jamais parce que c'est le petit privilégié, c'est le petit chouchou, mais c'est toujours en vue d'une bénédiction plus large. Et ça, c'est vraiment la conclusion que j'aimerais nous laisser, vous laisser, c'est de dire que quand on reçoit un don, une bénédiction, en fait, c'est jamais pour la garder pour soi, c'est toujours pour aller la partager. Et c'est ce que Dieu a lancé comme challenge à Abraham, au travers de lui dire « tu seras une bénédiction pour toutes les nations, pas simplement juste pour toi, ta famille et ton peuple ». Et c'est aussi ce à quoi Dieu a appelé Adam et Ève, c'est ce à quoi Dieu a appelé David, au travers de cela, et c'est aussi ce à quoi Dieu nous appelle en tant qu'Église, que les bénédictions que nous avons reçues, nous puissions les propager autour de nous. Je vous invite à prier. Père Céleste, tu vois que quand nous ouvrons cette Bible, parfois nous avons beaucoup de questions, plus de questions que de réponses. On se demande parfois, où va ta volonté? Comment est-ce que tu fais les choix? Qu'est-ce qui fait que tu choisis l'un et pas l'autre? Et Seigneur, parfois, ça peut nous déstabiliser. Mais je te prie que, au travers de cette histoire de Saül, de Samuel et de David, tu puisses nous rappeler ces vérités fondamentales. Seigneur, tu attends de nous une obéissance à ton commandement. Tu attends de nous une fidélité qui n'est pas une obligation, qui n'est pas une contrainte, mais Seigneur, c'est un appel à se tourner vers toi et à recevoir de toi tes bénédictions, Seigneur. Et apprends-nous aussi à ne pas les garder pour nous, apprends-nous à nous ouvrir aux autres, à notre prochain, à ceux qui sont différents, et que nous puissions vivre ces dimensions du royaume de Dieu, les dimensions de pardon, de réconciliation. Tu vois qu'entre David et Saül, ça n'a pas été possible, mais que ça a été compliqué dans leur relation, mais Seigneur, toi tu es resté fidèle et tu as maintenu ta parole, Seigneur. Je te prie encore de nous inspirer dans la suite de cette série, que tu puisses nous parler au travers de ton serviteur David. Amen.